Et bonjour, bienvenue sur RDWA 107.5, l'émission L'Étoile Polaire, émission d'astronomie amateur. Alors, aujourd'hui, c'est l'épisode 20 de L'Étoile Polaire et c'est aussi l'émission spéciale numéro 3. Donc là, c'est une émission un peu particulière pour fêter un peu les 1 an de L'Étoile Polaire. On a décidé d'inviter avec nous les enfants. Donc, dans le studio avec nous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants. Et on va discuter d'astronomie tous ensemble ce matin. Et on a aussi toute l'équipe de l'Étoile Polaire qui est là. On a Axel, Amandine, Rémi et Pierrick. On n'a pas assez de micros pour tout le monde, donc on va se les passer. Mais on va bien se... Donc on est aussi dans le nouveau studio de RDWA à Luc en Diwa. C'est la première fois qu'on enregistre ici. Et il faut dire que le studio est vraiment super, bien, super agréable. Quoi. L'endroit est vraiment agréable.
C'est vrai.
Voilà, donc on espère qu'on va passer un bon moment ensemble ce matin dans l'Étoile Polaire. Et je vais commencer par faire un petit tour du ciel. Parce que là, moi, je suis sorti sur ma terrasse hier soir et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Il y a vraiment les constellations fin d'hiver, début de printemps. Et on a, si on regarde vers le nord, on voit la Grande Ourse. Mais en ce moment, la Grande Ourse, hein, celle qu'on dit que c'est une casserole, la Grande Ourse, elle est vraiment levée, elle est verticale en fait. Donc elle ressemble vraiment à un gros point d'interrogation là, au nord-est, posé dans le ciel. Et ensuite, si vous allez, vous faites un tour, donc en allant plus vers l'est, puis vers le sud, d'abord vous allez tomber sur le Lion, cette grande constellation, une espèce de trapèze avec la tête arrondie du Lion, qui est très belle à observer. Et quand vous continuez un peu au-dessus, vous allez avoir ces deux étoiles très brillantes qui sont Castor et Pollux dans les Gémeaux, un peu plus hautes hein, en latitude. Et ensuite, vous continuez, là, vous tombez sur Orion. Donc vraiment, le grand guerrier d'Orion, on en a déjà parlé avec sa ceinture et ses trois étoiles alignées qui sont très repérables. Et quand vous continuez encore, vous arrivez sur le Taureau, et donc le V du Taureau avec l'étoile orange Aldébaran et l'amas des Pléiades. Qu'on distingue comme une tache là, à l'œil nu, même un peu plus précis qu'une tache. Voilà, donc ça, c'est le ciel que vous pouvez observer en ce moment, à la tombée de la nuit.
Et Sirius aussi.
Alors, ouais, tout à fait.
Sirius à gauche d'Orion.
À gauche d'Orion. Alors là, justement, en fait, si vous prolongez les trois étoiles d'Orion, de la ceinture, ouais. vers le bas, vous tombez en fait sur Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel dans le grand chien. Alors, les enfants. Alors les enfants, déjà, vous pouvez peut-être commencer par vous présenter, non ? Dire votre nom. Attends. Qu'on entende vos voix. Allez-y.
Alors moi, c'est Louison.
Ok. Bonjour. Je
m'appelle
Malou. Je
m'appelle Ismaël.
Juliette.
Nine.
Moi, c'est Gabriel.
Moi, c'est Tao.
Ok, bah, bienvenue à vous et merci d'être venu dans cette émission. Ça nous fait vraiment plaisir, en fait, de vous accueillir et de faire cette émission spéciale ensemble. Alors je vous ai donné justement une espèce de carte du ciel qui représente une petite portion de ce qu'on peut observer en ce moment et de ce que je viens de décrire. Et c'est ce qu'on appelle le G de l'hiver. C'est un, en fait si on rejoint, si on relie comme des points certaines étoiles du ciel et ces étoiles brillantes, en fait on a, ça forme un G. Et donc ça part du Taureau avec Aldébaran. Vous voyez j'ai écrit à l'amas des Pléiades juste à côté. Quand vous montez, vous avez une étoile très brillante dans le cocher qui est Capella. Ensuite, vous redescendez, en fait. Donc là, on imagine qu'on fait un G comme quand on l'écrit, un grand G majuscule. Donc on part d'Aldébaran dans le Taureau, on monte sur Capella, on passe par Castor et Pollux dans les Gémeaux, on redescend par Procyon dans le petit chien, Sirius dans le grand chien, là on est tout en bas du G. Donc Sirius, cette étoile la plus brillante du ciel dont je parlais, hein, qui est dans l'alignement du Baudrier d'Orion. Et ensuite, on repart sur Orion pour finir la boucle du G avec Rigel et Bételgeuse, qui sont colorées aussi, ces étoiles. Il y en a une... alors, je ne me rappelle jamais. Axel, c'est Rigel, la bleue, et Bételgeuse, la,
oui,
la orange.
C'est ça.
Ouais, c'est
oui.
ça. J'ai entre rouge. Voilà. Alors, ce petit tour du ciel étant fait, moi, ça me donne envie, et ça nous donne envie de vous poser cette question à vous, les enfants. Qu'est-ce que ça vous fait, en fait, quand vous regardez le ciel ? Est-ce que déjà, vous observez le ciel ? J'imagine que oui, sinon vous ne seriez peut-être pas venu ici aujourd'hui. Moi, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous avez des souvenirs de certaines observations que vous ayez pu faire ? Ou voilà, si vous avez envie de parler de ça.
Moi, quand je regarde le ciel, j'ai l'impression que je vais me faire choper par un ovni.
Donc ça, c'est la sensation ça que ça te donne.
Ça fait un peu peur, mais c'est beau quand même.
Ok.
Quand t'as l'impression qu'on va venir te chercher, t'as l'impression qu'il y a du monde là-haut.
Bah, quand on sait qu'il y a des étoiles, il y a des planètes quand même plus 6 fois plus grosses que le Soleil, on se dit qu'il peut y avoir du monde.
C'est sûr que c'était le monde, non ?
Bon, des planètes 6 fois plus grosses que le Soleil, il n'y en a pas. Hein. Les planètes, elles sont beaucoup plus petites que les étoiles. Mais il y a surtout beaucoup de planètes, ouais.
Commence pas ton cours, Fred.
Ah bah bravo les adultes, hein.
Et les autres, alors ? Quand vous observez le ciel, ça fait quoi ?
Bah moi, quand j'observe le ciel, des fois j'ai un petit peu, comme lui, l'impression qu'il y a des formes de vie là-haut qu'on n'a encore jamais étudiées. Et je me dis, si juste devant chez moi, il y a une soucoupe volante qui arrive, je sais pas ce que je vais faire.
Tu vas dire bonjour, non ?
Il y a cette scène quand même dans La soupe aux choux, pour ceux qui l'ont vue. Où il y a la soucoupe volante qui arrive et Louis de Funès, du coup, il voit ça, il sort son fusil d'abord et puis il voit l'extraterrestre qui débarque et hop, il l'invite à boire un coup.
Sinon, il y a un sketch des nuls qui est sur le même truc.
Okay.
Un gars qui voit trois extraterrestres et qui les invite à boire un cognac.
Voilà, donc on n'est pas obligé de se frapper dessus, on peut aussi essayer de communiquer.
Heureusement qu'il y a l'alcool pour ça.
Et du coup, par exemple, quand vous observez le ciel, il y a quand même quelque chose qu'on regarde souvent, c'est la lune. Vous observez la lune un peu ?
Ouais.
Qu'est-ce que ça vous fait ? Vous trouvez ça beau ou pas ?
Oui, et des fois, si on regarde bien, on voit quand même un peu les cratères. Vraiment, tout petit peu.
Ouais, oui.
Si on la regarde pendant longtemps, au bout d'un moment, tu commences à voir des petits ronds. Et en fait, oui. C'est les cratères.
Moi, j'ai l'impression qu'elle va me tomber sur la gueule.
Moi, c'est surtout c'est la beauté de l'ensemble.
Moi aussi.
C'est-à-dire la lune sur le fond du ciel avec les étoiles.
Ouais.
Moi, les étoiles, ça me fait toujours penser à ma petite sœur parce qu'elle est morte quand elle était bébé et on s'est toujours dit qu'elle était peut-être une étoile maintenant.
Je suis trop sensible.
Ok, donc les étoiles, on y met plein de choses, on y met de la beauté, on y met du cœur. Qu'est-ce qu'on y met d'autre ?
Tous les soirs, des fois, quand je me couche dans ma caravane chez mon père, je les regarde toujours. Et à chaque fois, le soir, j'adore regarder le ciel.
Qu'est-ce que ça te fait ? Ça te détend ? Ça t'appelle ?
Des fois, ça détend parce que c'est... Les moments que je préfère, c'est quand il y en a vraiment beaucoup.
Moi, j'adore me dire que des étoiles, il y en a plein et elles sont hyper loin, des fois des centaines d'années-lumière de la Terre.
Et qu'on arrive à les voir à l'œil comme ça,
ouais.
C'est impressionnant. Hein.
Ouais.
Et peut-être qu'il y a des extraterrestres, hein.
Moi, ça me donne un peu le vertige.
Tant qu'il nous casse pas la tête, mieux vaut se bourrer la tête en notre ami. Hein.
Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, vous nous parlez à la fois de beauté, mais aussi de peur par rapport au ciel. On va vous montrer des photos que Rémi a faites, si tu veux les présenter, et vous allez pouvoir nous dire un peu ce que ça vous inspire.
Peut-être Rémi, tu peux nous dire deux mots sur cette photo ?
Cette photo-là, c'est la nébuleuse de l'Aigle.
La première.
Dans la constellation du Sagittaire, il me semble. C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Toujours un petit doute.
Si vous les faites tourner en dessous, vous allez même les poser là.
Voilà, on a beaucoup des photos du ciel d'été. On a aussi la nébuleuse du cœur dans la constellation de Cassiopée. Voilà, c'est reconnaissable. Juliette, c'est toi qui as le cœur dans la main.
Tu le vois le cœur ou pas ?
Et dans l'autre main, tu as la galaxie du sombrero.
Alors c'est qui qu'elle aime de nous, hein ? Parce qu'elle a le cœur sur la main. Mais sinon, un trou noir, c'est quelqu'un qui mange trop, non ? De toute façon, il n'y a pas de différence. C'est tous les deux gros.
Ok, alors vous êtes bien silencieux devant ces images. Vous les trouvez comment, ces photos ?
Très belles. Moi, je les trouve magnifiques. Et par contre, je comprends pas trop ce que c'est ça.
Oh, tu peux la décrire ?
Ça ressemble à...
On dirait un ovni qui va tous te tuer.
C'est comme un peu une grosse boule de lumière avec autour une espèce d'anneau un peu comme Saturne. À part que c'est pas une planète, Et c'est une espèce de boule de lumière. Comme si on voyait un espèce de trou, un trou noir mais jaune, mais à plat. Et à côté, il y a plein d'étoiles de multicolores. C'est trop beau.
Mais en fait, les étoiles, elles sont sur le premier plan. Les étoiles, elles sont proches, dans notre galaxie. Et ce qu'on voit au centre de la photo, c'est une autre galaxie que la nôtre. Et en fait, on la voit sur la tranche. C'est pour ça qu'elle ressemble à Saturne et ses anneaux, comme on la connaît. Sauf que c'est une galaxie qui a à peu près une vingtaine de millions d'années-lumière. C'est très très loin de chez nous. Et c'est une galaxie qu'on voit sur la tranche, donc avec le centre galactique qui est très lumineux. Et tous ces bras qui sont autour.
Mais personne n'est allé la voir.
Non, personne n'est allé.
Bah, mais donc, si
tout le monde peut la voir, mais personne n'est allé.
Mais donc, si ça veut dire que de la Terre, c'est de cette taille, et ben ça veut dire que si on allait dessus, ce serait géant.
Ouais.
C'est
la galaxie, c'est vraiment très très grand. C'est des centaines, 100 milliards d'étoiles. Donc on imagine. En fait, on ne peut pas imaginer l'existence que ça représente.
Et donc celle-là, elle s'appelle la galaxie du sombrero, qui rappelle les chapeaux mexicains.
Et est-ce que vous avez déjà observé dans un instrument, au télescope ou à la lunette, les étoiles?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez observé alors?
Ben moi, les deux planètes auxquelles je suis le plus attaché, c'est Mars et Neptune.
Neptune, t'as observé Neptune?
Je sais plus si c'est Neptune, je crois pas l'avoir vu, mais je sais plus si c'est Neptune ou non. C'est
peut-être plutôt Saturne, donc il y a des anneaux.
Non. C'est pas.
Neptune, elle est un peu bleue, je crois, quand on observe.
Ah. Moi, j'ai déjà observé la Lune avec un télescope, mais c'était pas facile puisque la notice était en anglais, totalement en anglais. Donc c'était.
Et tu l'as vu la Lune ou pas?
Ah ouais, ça faisait des beaux cratères.
La Lune est pleine de cratères comme en gros.
Il y en a qui sont plus chanceux et qui voient l'ISS devant.
Ah oui.
Et peut-être avec un peu de chance, ils voient les astronautes.
Toi, Juliette, t'as observé un peu?
Ouais, j'ai observé la Lune, Mars,
Okay. Jupiter, t'as déjà regardé Jupiter?
Mais Jupiter, c'est pas celle où on a découvert un. Ouais, il y a plein de rayures et un astronaute a découvert qu'en fait il y avait une tache. C'est Jupiter qui a ça.
C'est ça.
Jupiter, elle a une grande tache.
Ouais. C'est un grand cyclone.
Moi, je crois que j'avais observé Mars, Jupiter, Saturne, la Lune. Un petit peu d'autres, je sais plus.
Ok, donc vous êtes plusieurs à avoir déjà mis un œil derrière un télescope. Et alors du coup, ça fait quoi la différence entre quand vous observez à l'œil nu, vous regardez toutes ces étoiles avec ce que tu disais aussi tout à l'heure, le paysage, l'ensemble, cette beauté-là, et au télescope où vous observez vraiment un tout petit bout du ciel, tout grossi, un objet? Est-ce que ça vous fait quelque chose de différent? Le fait qu'il y ait le télescope, est-ce que ça change quelque chose? Ou est-ce que... Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes au télescope, quand
moi,
vous regardez ça?
Moi, j'ai pensé que, imaginez une camionnette remplie de sable. Il faut imaginer qu'il y a autant de grains de sable que d'étoiles dans l'univers observable.
Donc l'immensité.
Il peut y en avoir plus.
Mais peut-être qu'il y a aussi des étoiles dans notre monde, dans notre, chez nous là, où, qu'on n'a pas encore découvert. Et quelques étoiles. À propos, j'ai une petite question. J'ai entendu dans un livre, j'ai lu que. Est-ce que c'est vrai que Béltigieuse, c'est une étoile qui est en train d'exploser?
Je sais pas, Axel, est-ce qu'elle est en phase terminale ou pas? Franchement, je sais pas.
Béltigieuse, elle fait partie des étoiles qu'on appelle des géantes, peut-être même des super géantes, je sais pas. C'est des étoiles très très grosses, beaucoup. Louisan, si tu peux arrêter de toucher le pied de micro, parce qu'on entend tout le bruit. Merci. Et du coup, ces étoiles géantes, plus elles sont grosses, et plus elles brûlent vite. Et du coup, elles vivent moins longtemps que les petites étoiles. Alors sur Betelgeuse, on a pensé il y a un an, deux ans presque, qu'elle allait peut-être exploser parce que d'un coup elle était beaucoup moins brillante. Et en fait, on a découvert un peu après, en cherchant mieux, que c'était un gros nuage de poussière qui était passé devant. Et c'est pour ça qu'elle avait baissé un peu en lumière. Du coup, on sait que voilà, c'est une étoile qui vivra moins longtemps que notre Soleil, par exemple. Mais on ne peut pas dire si elle va exploser demain, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans.
Mais c'est en fait, l'article, il s'appelait Betelgeuse, l'étoile mourante. Donc oui. Ça veut dire que... Et la photo, c'était de l'étoile en train d'exploser.
Ça arrive dans l'univers.
Ça peut arriver avec les grosses étoiles, comme ça, elles explosent. Et si c'était arrivé, si ça arrivait maintenant, elle brillerait pendant quelques jours très très fort, beaucoup plus fort que la Lune. Mmh. On la verrait même de jour dans le ciel bleu, on verrait l'étoile, son explosion.
Il y a plusieurs manières de mourir aux étoiles. Voilà la photo que tu as dans la main. Les dentelles du Cygne, c'est le résultat d'une explosion d'étoiles qu'on appelle une supernova, un remanent de supernova, ça s'appelle.
C'est ça, ce qu'on
dit. Dans l'univers, toutes les étoiles, elles naissent, elles s'allument à un moment et elles vont brûler, enfin elles vont pas brûler, mais elles vont émettre de la lumière pendant quelques milliards d'années et ensuite elles vont s'éteindre. Donc elles vivent et elles meurent comme nous.
Comme les animaux.
Mais c'est juste pas du tout la même échelle de temps. C'est sur des milliards d'années. Après, sur des étoiles, plus elles sont grosses et moins elles vivent longtemps, en fait. Voilà. Donc les grosses étoiles comme Rigel Betelgeuse, là, c'est sûr que c'est des étoiles qui vont vivre 100 000 ans ou quelques centaines de milliers d'années, mais qui vont pas forcément atteindre le milliard. Le Soleil, lui, il vit 5 milliards d'années. Et là, il en estime... Enfin, 10 milliards d'années.
Oui,
et on en est à la moitié. Ça fait 5 milliards d'années qu'il est allumé. C'est ce qu'on pense.
Du coup, ça veut dire que si une étoile, imaginons, parce que je pense que ça n'existe pas, imaginons 30 cm, elle va vivre hyper longtemps.
Non, ça n'existe pas.
Oui, ça n'existe
pas.
Oui,
mais si on imagine,
plus,
en tout cas.
Dans l'idée, plus elle est petite, plus elle brille longtemps.
Ouais.
Okay. Moi, j'ai une petite question à vous poser. C'est est-ce que vous avez un souvenir particulier par rapport à l'observation ? Par exemple, une fois, vous avez vu quelque chose dans le ciel qui vous a vraiment frappé, comme par exemple une super belle météorite ou un paysage vraiment particulier avec la lune et puis une étoile brillante ou des planètes. Est-ce que vous avez un souvenir par rapport à ça?
Oui, une fois, c'était en plein jour, j'avais pas observé au télescope, mais il y avait, je sais pas, je crois que c'était le soleil, il y avait des nuages, des trucs qui passaient devant, ça faisait une boule de lumière.
Oui, effectivement, c'était un jour où la brume ou le brouillard était tel qu'en fait ça se comportait comme un filtre solaire.
Ouais. Okay. Ah oui.
Et c'était vraiment impressionnant, on voyait vraiment le disque du soleil comme on peut le voir en fait.
Moi aussi je l'avais en fait.
Ça c'est assez rare, mais c'est vrai.
Oui, c'est
moi
ce
aussi
que...
je l'avais déjà vu, en fait c'est quand je partais avec une amie, je ne sais plus où. Et là en fait je tourne la tête devant le fourgon et là je vois une boule. En fait j'ai cru que c'était la lune.
Et oui.
Mais après je regarde autour et je vois pas le soleil. Et donc là je me dis, en fait ça c'était le soleil. Et vraiment j'avais halluciné.
Après moi j'ai vu une fois, rentrée de vacances, sur l'autoroute, j'ai vu quelque chose de bizarre. Alors c'était... Ça ressemblait un peu à un ressort en l'air, comme une ampoule. Donc on a pensé d'abord à une ampoule. Hein.
Ampoule, voilà.
Mais c'est un peu comme un filament. Puis ça brille fort, hein. Ça faisait presque mal aux yeux. Puis à un moment, ça a diminué, c'est à ce moment-là que j'ai vu la forme du machin, là, c'est bizarre. Et puis d'un coup, ça s'est éteint.
Ok, donc là, aucune idée de ce que ça peut être.
On va tous mourir.
Les autres, vous avez d'autres expériences par rapport à ça?
Ben moi,
Lynn, tu t'es déjà exprimée, on va laisser la parole aux autres.
Moi, j'ai déjà vu un halo autour de la Lune, de la lumière.
Un halo arc-en-ciel presque autour de la Lune. Ouais, c'est beau ça.
Ah ouais. J'ai déjà vu une éclipse.
Une éclipse de quoi? De soleil ou de lune?
De soleil.
Okay.
Enfin, c'était la lune qui passait devant le soleil.
Ouais, une éclipse de soleil.
Il faisait nuit un peu.
Et alors, raconte un peu.
Bah du coup, c'était le jour et enfin, on aurait dit que c'était vraiment le soir, c'est tard.
C'était en France?
Ben oui.
Ok.
Moi, c'est, j'ai vu une éclipse, c'était de la lune. Quand, c'était la nuit. Et elle était rouge. Mmh.
Oh. Il y a 3 ans, non ?
Ouais.
Belle éclipse. Avec Mars à côté.
Est-ce que pendant cette éclipse de la Lune, tu as remarqué l'ombre de la Terre arrondie qu'on voyait se projeter sur la Lune un peu avant qu'elle devienne rouge?
Non.
Un peu après plutôt.
Non, parce que je l'ai pas vu, j'ai pas vu se former rouge, je l'ai vu directement rouge.
D'accord.
J'ai pas vu le début.
T'as pas vu le début?
C'était chouette en tout cas.
Ah bah je vous en prie, après monsieur extraterrestre, faites comme chez vous.
Est-ce qu'il y en a d'autres là qui... Malou, si tu veux nous faire partager quelque chose?
Bon, non.
Rien de spécial? Ok.
Est-ce que vous avez vu la comète l'année dernière?
Ah oui. En fait on l'a cherchée, mais je crois même que c'était pas la bonne heure.
Ah
oui,
c'est cette photo-là.
La comète,
on l'a pas trouvée en fait, et après on a réalisé que en fait c'était pas le bon jour.
Mais c'était la comète à double branche.
Ouais.
Ouais, bah, je l'ai vue en été. On la voyait par la fenêtre de chez Fred. Ouais, on la voyait par la fenêtre. Et de la chambre, c'était très très beau.
Mais donc en fait, je m'en souviens plus, l'âge, enfin, elle revient tous les combien de temps?
Cette comète de l'année dernière?
Je sais pas si elle revient.
C'est de 2000 et quelques années, je crois.
Ouais, moi, je crois que c'était 3500, 600 ou 500 ans.
Bah alors c'est pas aujourd'hui ou demain qu'elle va arriver.
Non.
C'est logique.
Non, mais il y en aura peut-être d'autres.
Ouais, peut-être. Mais du coup, ça veut dire que s'il y en a plein qui passent rapprochés, quasiment au même moment, et ben ça veut dire que dans plein de temps, et ben on aura un gros amas d'étoiles filantes qui va revenir.
Ouais, elles vont et elles viennent, mais elles s'agglutissent, elles font pas un gros tas. Elles vont, elles viennent.
Quand on part en vacances sur l'autoroute.
Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres?
Ouais, forcément. Ouais. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais c'est toujours de quelques kilomètres par seconde.
Okay. Mais on dirait vraiment pas, on dirait qu'elle bouge pas en fait.
Bah, elle bouge même d'un jour sur l'autre en fait,
ouais,
elle se déplace sur le fond du ciel. Ok, on va s'arrêter et faire une petite pause en fait musicale. On va écouter un petit morceau du groupe Tinari Wen. Et ensuite on reprendra l'émission pour une deuxième partie. A tout à l'heure. retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDOA 107.5. Donc aujourd'hui, on continue cette émission spéciale avec sept enfants qui viennent nous parler de leurs ressentis sur l'astronomie et de leurs expériences par rapport au ciel. Voilà. Alors dans cette première partie, on avait plus parlé donc du ciel, de l'observation, de ce que ça pouvait vous faire quand vous l'observiez. Et là, on va passer à une autre thématique. On va plutôt imaginer, par exemple, on va partir dans l'imaginaire. Donc, on va imaginer, par exemple, que vous ayez un vaisseau spatial ou des choses comme ça. Comment vous imaginez un vaisseau spatial? Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on pourra aller dans l'espace? Est-ce que, voilà, ce genre de thématique. Et donc, ce qu'on va commencer par vous demander, c'est est-ce qu'il y a des films que vous avez vus, par exemple, sur l'espace? Des films de science-fiction ou des documentaires ou non, voilà. Et qui vous avait inspiré?
Moi, c'est E.T. E.T. l'extraterrestre. En fait, c'est un film d'un enfant et qui s'entend pas très bien avec ses frères. Et un jour, en fait, il y a une nuit plutôt, il y a un vaisseau spatial qui arrive, une coupe volante. Et voilà. Et en fait, il y en a un seul qui est sorti pour explorer. Et en fait, il y a des personnes qui sont arrivées pour voir parce qu'ils avaient vu une lumière dans la nuit. Et celui-là, là, E.T., on l'a appelé E.T., et ben, il n'a pas réussi à re-rentrer dans la soucoupe. Donc il est parti, et là, il rencontre le garçon. Je me rappelle plus comment il s'appelle.
Il s'appelle Elliot. Et bon, c'est un film que tout le monde a vu, en fait, E.T., dans notre génération, les adultes. C'est un film très très connu. Et du coup, E.T., il est comment dans le film? Cet extraterrestre, il est comment, lui?
Il est petit, un peu plus petit qu'Elliot. Et il a un gros truc à l'arrière, là, une grosse bosse.
En fait, c'est plutôt comment il se comporte, quoi. Comment il est dans son corps, comment il est.
Ah ok, vu qu'il connaît rien, il sait rien, donc il tripote.
Il sait quand même quoi. Comment venir sur Terre depuis l'espace, chose que nous on sait pas faire.
Ouais, voilà. Donc en fait, première chose, il sait plus de choses que nous.
Ouais, parce que ça.
Mais pas dans notre monde.
Oui, voilà. Tu veux dire qu'il découvre.
Il découvre le monde des humains, ouais. Avec Elliot. Et en fait, il a tellement envie de rentrer chez lui. Et à la fin, donc, il arrive à rentrer chez lui. Et la phrase qu'il a le plus dit, c'est E.T. téléphone maison.
E.T. téléphone maison.
Ok, bah merci. Alors, ouais, E.T. l'extraterrestre, est-ce qu'il y a d'autres films que vous avez vus qui vous ont plu en rapport avec l'espace?
Films, livres, peu importe le support.
C'est pas sorcier sur l'astronomie.
Ouais.
Ah oui. Ça parlait de quoi dans ce dans cette
il parle un peu de tout avec comment on fait pour fabriquer une fusée dans les grandes lignes et puis un peu comment les humains ils vont se voir dans l'espace et puis comment ça se passe pour les étoiles et tout ça. Mais par contre c'est quand même assez vieux du coup c'est plus très d'actualité. Parfois ils disent que bientôt on va lancer une fusée en 2000 par exemple et du coup on clique quand même sur un peu.
Vous voulez par exemple 2050 ou voilà.
Mais non, on est en 2020.
Je sais qu'on est en 2021.
Il y a notamment une reprise de la célèbre scène dans E.T. avec E.T. dans le porte-bagages et Elliot qui pédale. Et le vélo qui passe devant la lune.
Passe devant la lune, ouais.
Sauf que là, c'est le camion.
Ouais, c'est une belle image dans le film. Mmh.
Mais c'est pas Mars Attaque? Non.
Ah, ça me dit quelque chose.
J'ai pas envie de savoir.
Mars Attaque, en fait, je. Ma mère, elle m'en a un peu parlé. Je sais plus si c'est vraiment ça. Je crois bien qu'en fait, ce sont des Martiens qui attaquent.
Ouais, c'est dans le titre.
Mars Attaque, je crois que je l'ai pas vu, mais je crois que c'est des extraterrestres qui viennent de Mars qui veulent envahir la Terre.
C'est logique, Mars Attaque.
Oui, mais moi c'est pas ça, c'est parce qu'en fait dans mon dictionnaire il y a une page sur les films, il y a Avatar, tout ça, et il y avait Mars Attaque.
Ouais, Mars Attaque, ouais, c'est bien marrant.
Oui, c'est une comédie.
Ouais.
Si vous voulez mon avis, les extraterrestres dans Mars Attaque, vu qu'on voit leur cerveau, à mon avis, ils sont coupés les tifs un petit peu trop court. Hein.
Donc, tu l'as vu, toi, alors?
Ah non, jamais.
C'est un film de psychopathe.
Et tu verras jamais le voir.
Dans E.T., l'extraterrestre, il est plutôt gentil, quoi. Dans Mars Attaque, c'est plutôt les extraterrestres envahisseurs qui veulent tuer toute l'humanité et coloniser la Terre, quoi.
Mais en même temps, à chaque fois, ils se protègent parce qu'on ne sait pas encore, parce qu'il y a une hypothèse qui dit que sur Mars, il y a de la vie. Et en fait, on a appelé ces extraterrestres les Martiens. C'est comme nous, les Terriens.
On les a jamais vus pour l'instant. On les a jamais détectés. On imaginait qu'il y avait. Mais pour l'instant, on a envoyé des robots sur Mars. Il y en a d'ailleurs un qui est arrivé il y a pas longtemps, la Persévérance.
Ah oui.
Et bon, pour l'instant, ces petits robots-là, ils ont rien vu.
Ce que tu veux dire, c'est qu'on appelle extraterrestres Martiens. Ça vient de Mars.
Mmh. Et nous, Terriens.
Ça vient de n'importe où, on dit des Martiens.
Après, s'il y en a qui se posent encore ces questions après avoir écouté l'émission, je conseille quand même Professeur Moustache.
Ah oui.
Le Professeur Moustache.
Tu mourras moins bête.
Voilà.
Tu mourras moins bête.
Tu connaissais pas ?
Non.
C'est bien stupide, mais c'est éducatif. Voilà.
Bah, c'est mieux que ce soit des trucs stupides.
Okay. Alors du coup, on a parlé d'extraterrestres, là, on a vu que ce soit dans Mars Attack, on a des extraterrestres qui sont plutôt des envahisseurs. Dans E.T., on a quand même... parce que E.T., il guérit les plantes, E.T., il est vraiment... c'est vraiment une créature d'amour. Donc en fait, les extraterrestres, jusqu'à présent, y a des gens qui disent en avoir vu, mais là, par des gens, on n'en a jamais vu. Donc est-ce que ça existe d'après vous, les extraterrestres?
Il y en a un, on peut vous présenter Xblet, hein, il vient entrer Xblet. Hein,
il attend, on va l'interviewer Xblet. Après.
Et on n'a pas trouvé
le traducteur. J'imagine qu'il y a tellement de planètes dans tout l'univers que on peut pas pour le moment savoir si ça existe ou si ça n'existe pas parce que. On n'a pas pu tout aller observer et probablement il y en a qui existent quelque part, on va savoir où.
Mais sur la Terre, actuellement, on avait découvert quelque chose qui n'était pas humain, pas animal et pas fabriqué par l'homme.
Ah oui, c'est
Et ça fait longtemps qu'on l'a découvert, à peu près depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Qui s'appelle le Blob.
Oui.
Ça ressemble un peu à du vomi de labrador.
Un champignon aussi. Un petit peu. Je pense que...
Mais non, le blob,
on connaît pas beaucoup de choses sur lui. On sait juste que sa tête est un petit peu en forme de goutte d'eau. C'est pour l'instant...
Ah mais là, tu parles de Roswell. Mais là on bascule dans autre chose, en fait.
Pour un petit truc du blob.
Là, tu parles de Malcolm.
Alors, le Vénard, s'il a pas les solutions aux maths, il a qu'à aller s'accoupler avec son voisin pour profiter de toutes les connaissances.
Quoi ? Mais qui ?
Le blob.
Bon, le blob, il n'existe pas, c'est un film, le blob. Donc, on n'a jamais découvert de blob. Ça, c'est pas le sujet. Donc, par rapport aux extraterrestres, donc globalement, vous dites, peut-être, on n'en sait rien, mais il y a tellement de planètes, c'est tellement grand qu'il y a quand même des chances qu'il y en ait. C'est ça que vous pensez ? Ou il y en a qui pensent autre chose
parmi
vous ?
Tu veux dire un truc ?
Moi, je pense qu'il y en a parce qu'il y a tellement de planètes, et puis même proches dans notre système solaire. Je sais qu'il y a une lune, je sais pas du tout son nom, mais une lune de Jupiter qui a beaucoup de chances d'arrêter.
Mais pourquoi on va pas la voir ?
Ils disent que c'est l'endroit qui a le plus de chances d'abriter des extraterrestres.
Ils disent de la vie en fait.
Ouais, et puis il y en a des.
Enfin, des bactéries.
Ouais, de la vie, quoi.
Mais pourquoi on va pas la voir alors ?
Et comme il y a tellement de systèmes solaires et de galaxies et de. Je dirais qu'il y en a.
Toi, tu penses que c'est sûr qu'il y en a quelque part ?
Mais du coup, pourquoi on va pas voir?
Mais c'est loin, je sais pas si on a déjà envoyé des sondes. Si, bah si, autour de Titan, il y a des
non, c'est de Titan qu'on parle, ou d'Europe, peut-être?
Ou Europe.
Je crois que c'est un petit peu une des premières fois où ils ont réussi à percer les gaz avec Persévérance de Mars.
Alors, c'est autre chose. Alors, sur Mars, on a envoyé plusieurs fois des robots depuis 60 ans maintenant. On envoie régulièrement des sondes dessus. Mais par contre, je pense que tu parles de la Lune. La Lune de Europe, Lune de Jupiter, qui a une surface gelée. Et on pense que sous la surface gelée, sous la glace, comme la banquise un peu, mais qui recouvre toute la planète. Et dessous, on pense qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide. Et s'il y a de l'eau liquide, il pourrait y avoir de la vie. Surtout qu'il y a du sel et tout ça. Et le problème, pour aller voir, alors déjà, c'est loin, mais surtout, c'est qu'il faudrait quelque chose qui passe, qui traverse toute la banquise pour aller jusque dans l'océan souterrain et de là, faire des analyses. Mais du coup, une fois qu'il est là, pour communiquer, c'est compliqué. La glace gêne la communication. Sinon, donc on ne sait pas encore exactement comment on pourrait faire.
Et tu sais combien d'épaisseur de glace il faut forer?
Non, je sais plus. Non.
Ça fait trois grosses missions là.
Ah oui, c'est...
Bon, faut envoyer l'équipe par Magédon.
Mais... faut envoyer des mineurs, oui.
Mais j'ai je suis pas sûre, mais moi surtout je lis beaucoup d'articles, beaucoup de livres. Documentaire en livre et aussi j'ai entendu parler que on a découvert des trous, des espèces de cratères en dessous de Mars. Est-ce que c'est vraiment vrai?
Un cratère, c'est forcément à la surface.
Ouais. Enfin, comme les cratères qu'il y a sur la Lune.
Bah, c'est forcément à la surface en fait. Il ne peut pas y avoir de trous dans la planète.
Non, mais pas dedans, mais en dessous. En fait, là, il y a la planète. Sud. Et pas ici, mais là.
Ah, c'est pareil, c'est dessus quand même, c'est une boule, la planète.
Oui, donc c'est tout le dessus en fait.
Mais effectivement, il y a une image qui est sortie où on voit un espèce de gouffre sur Mars, il n'y a pas très longtemps là.
Ouais, c'était en 2000... Gouffre de Padirac. Soit, je crois, soit le 2019 ou 2020.
Oui, il y a pas comme...
Sinon, pour continuer avec Mars, c'est quand même la planète est presque aussi observée que la Terre. Alors, parce que je compte pas ceux qui sont hors d'état hein, quand les astronautes iront sur Mars, enfin pas tout de suite. Hein. Ah bah la vache, qu'est-ce qu'ils vont en trouver hein? Il y a ceux dont ils sont pas bien déployés, ceux qui sont éclatés par terre, ceux qui sont.
Oui, il y a tout un tas de sondes qui ont été envoyées là-bas et qui n'ont pas fonctionné. Donc, tu veux dire qu'il y a déjà un peu des débris d'exploration spatiale humaine sur Mars.
Le pire, c'était une sorte de laboratoire géant. Ça ressemblait un peu à une ovni, une sorte de soucoupe comme ça, qui était fait pour... Il y avait tout dessus.
Mais là, tu parles de quoi, Louison, en fait?
Alors, c'était toujours sur Mars, c'était une sonde qui était censée... voilà, analyser l'air, analyser la profondeur, c'était par l'atterrisseur plutôt. Ouais. Et ben vers l'atterrissage, ça a été coupé. Les ondes radio ont été coupées. Et quelques années plus tard, Curiosity, qu'est-ce qu'il trouve? Des petits morceaux, un peu partout. Enfin, un endroit où il était supposé.
La sonde avait explosé. Donc il y a beaucoup d'échecs dans le spatial.
Ça fait mal au porte-monnaie. Hein.
Ah, puis la capacité de l'homme d'aller polluer des zones que lui-même n'a même pas mis le pied dessus encore. Quoi. Donc c'est quand même assez fou, on est quand même balèze pour ça.
Hein. Moi je...
Pour embrayer là-dessus et aussi pour commencer à clôturer gentiment l'émission. Moi je voulais vous poser cette question. Comment vous imaginez la vie sur Terre dans le futur? Est-ce que vous pensez qu'on va sortir dans l'espace? Est-ce que vous pensez... Qu'est-ce que vous imaginez pour vous, pour le futur?
Alors déjà,
Juliette.
Moi, je pense que ça va être comme dans La Belle Verte. Sinon...
Tu veux dire la planète? Il y a deux fois, hein. Planète.
Tu peux préciser La Belle Verte, peut-être?
La Belle Verte, c'est un film. C'est un film sur une autre planète. Et du coup, ben, la fille, elle va partir explorer la Terre.
Elle revient avec des terriens. Et voilà.
En fait, tu parles qu'elle sera comme leur planète à eux, aux personnes qui vont sur la Terre, leur planète, où il n'y a plus rien, il n'y a que de la nature et de l'eau et voilà. C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ouais.
Mais sur la belle verte, on est plutôt dans un monde, on va dire, optimiste, où il y a l'homme qui a fait un retour à la nature, en fait.
Il y a de l'harmonie. Ouais.
Ok.
Mais moi, je pense aussi que dans le futur, il y aura déjà beaucoup plus de technologies. On aura, je pense, inventé des choses beaucoup plus complexes. Et voilà, on aura peut-être...
Louison, tu voulais faire.
Moi, pour moi, il y a deux choix. Soit on pense que ce sera... Ce sera Tchernobyl en grandeur nature. Tchernobyl. Pour ceux qui connaissent pas la centrale nucléaire qui a explosé.
Dans les années 80 en Russie. Donc soit Tchernobyl généralisé, soit quoi ?
Soit comme dans la Belle Verte, retour un peu à la nature, genre. Ville végétalisée, rond-point plein de légumes.
Ou alors pas de rond-point du tout.
Tant qu'on y est.
Je vais faire des trucs. Soit on circule sur des petits canals avec des barques, des téléphériques, ou par des vélos, par exemple, comme à Copenhague.
Donc on arrête la voiture.
Voilà. À Copenhague, il y a 5 fois plus de vélos que d'habitants.
C'est plus d'avions.
Peut-être qu'on se téléportera aussi. On n'aura même plus besoin de moyens de transport.
Il y aura déjà des problèmes. Mais ça va voir dans le professeur Moustache, puisqu'ils en parlent.
En parlant d'avions, encore dans les articles que je regarde, ils parlent aussi de peut-être ce qui va se passer dans le futur. Par exemple, ils parlent des machines qui vont créer, par exemple, un taxi volant. Un taxi drone, enfin en forme de drone, où dedans ils mettent des gens et donc en fait ils prennent les airs. Et aussi l'avion sera remplacé par. Je sais plus comment il s'appelle. Les dirigeables.
Donc en gros, ça. On fera des forteresses volantes.
Voilà.
Un peu comme les cartes de Noël qu'on attache chaque année à un ballon à hélium et qu'on envoie.
C'est un peu comme le dirigeable.
Sur la mer.
Et ça pourrait être aussi un petit peu comme dans le château dans le ciel.
Ouais, le dirigeable du papa de Fazou. En fait, un peu de dirigeable comme ça.
Ouais, on aura inventé des cités volantes, plusieurs mondes. Ça voudrait dire un petit peu. Et ce serait très marrant et du coup il y aurait des avions spécialement pour aller de monde en monde, ce serait
des dirigeables.
C'est marrant ce fantasme de la voiture volante, de l'île volante, c'est quelque chose qui est dans les esprits depuis super longtemps. Moi quand j'avais votre âge, il y avait un film qui s'appelait Retour vers le futur. Donc ils partaient dans le futur, donc ils arrivaient à peu près à cette période là, 2020, et en fait il y avait des voitures volantes de partout. Aujourd'hui on est en 2020.
Ah bah, le grand
2021.
Toujours pas.
Il n'y a pas le skateboard volant.
La grande déception, il y a 100 ans on pensait il y aura des voitures volantes, on pourra aller sur des skates, on aura l'impression d'aller sur des vagues, en fait on est en pleine ville, il y aura des cités volantes. On est en 2020, il n'y a toujours pas de voitures volantes. Il y en a un qui a inventé la voiture avec de l'huile de friture, ce qui est déjà pas mal. Quand tu accélères, ça fait de la mayonnaise.
Il a 100 ans, je sais pas.
Après, il y a d'autres choses que peut-être on n'imaginait pas il y a 100 ans et qu'on a fait. Par exemple, aller sur la Lune en 69 ou envoyer des robots sur Mars.
C'est vrai qu'il y a des choses.
Les smartphones.
les smartphones, on n'a jamais dû les inventer. Hein.
C'était lequel déjà le premier.
La musique électronique.
C'est ça.
Ouais.
Je m'en souviens plus, c'était lequel Internet. Le premier pas sur la Lune.
Les choupons.
C'était quand le premier pas sur la Lune.
C'était en 69. 1969.
C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand bond pour l'humanité.
Ouais, ça c'est ce qu'il a dit quand il a posé le pied sur la Lune. Je vais vous poser une dernière question et on va s'arrêter là pour cette émission. Imaginez, vous arrivez sur une nouvelle planète. Qu'est-ce que vous faites?
Moi, je pense ce que je ferais déjà, j'irai voir s'il y a des signes de vie. Après, s'il y en a, je vois ce que je fais en fonction de ce que c'est comme signe de vie. Et après,
la chose te poursuit.
Voilà. On sait jamais. Bon, en fait, faudrait y aller pour voir ce qu'on fait. Quoi.
Ouais. Ben, faudrait y être.
Ouais, voilà.
Moi, j'irai plus sur Mars pour bien me marrer en voyant toutes les carcasses par un peu de ci, de là, et voir. Il y a deux robots qui peuvent fonctionner. Il y en a un, c'est les panneaux solaires qui sont mal décrochés, qui sont mal déployés. Le deuxième, il se cogne depuis à peu près 2 ans sur un rocher. Il recule, il se cogne.
T'aurais pas envie d'aller grimper la montagne de Mars là? C'est que c'est la plus grande montagne de
la Terre. Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il fait dans les moins 100 là-bas, tout en haut alors. Hein.
21 000 mètres de dénivelé.
Mais il est plus grand qu'Himalaya.
Bon, moi, si je me trouvais sur une nouvelle planète qui ressemblerait un petit peu à la nôtre, mais sans les humains, je crois que je m'en irais tout de suite et que je dirais à personne, parce que sinon tout le monde viendrait et ce serait à nouveau pareil tout de suite.
Personne. Tes amis sur la planète.
Ben, moi, je ferais un peu comme Gabriel. Déjà, j'irais trouver des trucs de vie. Par exemple, s'il y a des martiens, ben, j'essaye de devenir ami avec eux, de leur un peu leur montrer comment nous on vit. Même si je ne suis pas sur la Terre, je leur montre un peu des trucs de notre planète. Et au moins, je leur apprends à parler notre langue.
Et toi, t'apprends la leur ou pas?
Ben, la leur, je sais pas vraiment, on sait pas comment elle est, vu qu'on a vu encore aucun martien. Et sinon aussi, ben, ils pourraient devenir nos amis, et voilà.
Ok, les autres? Rien à dire sur le sujet?
Non. Non, moi, je suis un peu comme Malou.
C'est-à-dire?
Ben, c'est une planète habitable.
Ben, il n'y aura personne.
Ouais.
C'est mieux qu'il n'y ait personne, qu'il y ait plein de monde comme aujourd'hui.
Pour préserver un peu la pureté de la nouvelle planète.
De toute façon, c'est le rêve de l'humain. Hein. De trouver une planète, faire « Ah ouais, c'est vivable !» et d'aller la pourrir pour laisser l'autre tranquillement repousser, puis retourner sur Terre et faire « Ah ouais, c'est vivable !» et puis etc. etc. On s'en sort plus. Ouais,
ça, c'est la vision un peu pessimiste qui consiste à penser que l'homme pourrit toujours l'endroit où il vit.
Mais aussi, on est très très fort pour construire des choses pour détruire. Ouais. Ça, on est très très fort.
Bah, par exemple, on peut construire des grues avec une grosse
Par exemple, les fusils, on les a construits pour détruire.
Pour chasser au départ.
Ouais, au départ.
Seulement pour chasser, tu peux tuer un animal pour te nourrir ou tu peux aussi tuer ton voisin. Donc c'est là que le problème commence.
Les militaires, par exemple, ils écrasent les champignons, pourtant c'est eux qui les fabriquent. Hein.
Bon, mais on vous remercie, les enfants, d'être venus tous les 7. C'est d'avoir passé un petit moment avec nous, ça nous a fait plaisir de voir un peu ce qu'il y a dans vos têtes par rapport à l'espace. On va en rester là pour aujourd'hui. On espère que cette émission vous aura intéressé, vous aurez pris plaisir à l'écouter. Okay. Et on vous retrouve la semaine prochaine dans l'Étoile Polaire. Bonne semaine à vous. Mysterious mountains I wish to see closer. May I land?